Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment recycle-t-on les batteries lithium-ion? Un texte de Raphaël de Rome, paru le 14 février 2025 dans le magazine Québec Science. Les batteries lithium-ion renferment plusieurs métaux de grande valeur qui sont déjà recyclés. En attendant les gros volumes, l'industrie se met en place. La première usine québécoise spécialisée a vu le jour en 2024 à Saint-Bruno. Depuis son ouverture, Lithion Technology a déjà reçu 1000 tonnes de batteries lithium-ion qu'elle broie pour obtenir un concentré de minéraux critiques, lithium, nickel, cobalt, manganèse et graphite. Simple en théorie, délicat en pratique, dans une cellule de batterie, ces minéraux stratégiques sont collés en fines couches sur de minces feuillards d'aluminium pour la cathode et de cuivre pour l'anode. Ceux-ci sont beaucoup plus fins que le papier d'aluminium de cuisine, alors ils sont extrêmement fragiles et friables, indique le président de Lithion Technology, Benoît Couture. On parvient néanmoins à séparer les diverses composantes. L'acier, le plastique léger, le plastique lourd, le cuivre et l'aluminium sont envoyés au recycleur. Quant au précieux broyat noir concentré en minéraux critiques, il est pour le moment revalorisé par des fonderies de nickel en Amérique du Nord ou des raffineries en Asie. Mais le lithium est perdu au cours de ces procédés dits pyrométallurgiques. C'est pourquoi Lithion ouvrira bientôt une nouvelle usine qui réalisera la deuxième étape, la séparation et la purification des minéraux critiques par hydrométallurgie, incluant le lithium. Le broyat sera plongé dans un acide afin de dissoudre les minéraux. Puis, on ajoutera peu à peu des substances basiques. En faisant varier le pH, elles feront se déposer les métaux un à la fois sous forme de sel. Le procédé mis au point et breveté par Lithion permet de récupérer 95 % des minéraux critiques et de produire des métaux purs à 99,995 %, soit au-delà du degré de pureté exigé par les fabricants, le fameux grade batterie. Quand les fabricants achètent notre produit, les batteries qu'ils font avec sont aussi bonnes que si elles avaient été faites avec des matériaux vierges, affirme Benoît Couture. Une industrie appelée à croître. Pour le moment, Lithion reçoit assez peu de batteries en fin de vie, pour la simple et bonne raison que les véhicules électriques sont encore trop récents. L'usine de Saint-Bruno broie donc surtout des batteries provenant de rappels, ainsi que des déchets ou des produits non conformes issus de la production de batteries neuves. On ne considère pas que c'est un déchet qu'on traite, mais un minerai de grande valeur qu'on exploite, dit-il. À l'échelle mondiale, les batteries de véhicules usagés ne deviendront pas une source majeure de matériaux avant les années 2030. D'autant que bien des batteries durent plus longtemps que prévu, surtout les batteries de type LFP, lithium fer phosphate. On estime qu'elles pourront effectuer 5000 cycles de recharge-décharge. À 300 km par charge, ça ferait 1,5 million de kilomètres parcourus. Je ne sais pas si j'ai déjà conduit ça dans ma vie, illustre Denis Geoffroy, chef de la commercialisation chez Nano One, un fabricant de matériaux de cathode. On considère qu'une batterie de véhicule électrique a atteint l'âge de la retraite lorsqu'elle ne possède plus que 80 % de sa capacité initiale. Mais une batterie retraitée peut encore servir dans le stockage d'énergie à grande échelle. Par exemple, un parc éolien du Texas a installé l'an dernier 27 conteneurs remplis de batteries usagées provenant de véhicules électriques. Il pourra ainsi accumuler jusqu'à 53 mégawatts d'électricité pour répondre à la demande lorsque le vent ne soufflera pas. Un circuit de recyclage efficace réduira le besoin de nouvelles mines. Il constituera une source locale de minéraux critiques. L'Europe a déjà mis en place des règlements obligeant les batteries neuves à contenir un certain pourcentage de métaux recyclés, ce qui devrait soutenir l'industrie du recyclage. Ce n'est pas le cas au Québec pour le moment, mais compte tenu du poids et du volume des batteries installées dans un véhicule électrique, il y a peu de risques que celles-ci soient simplement abandonnées dans l'environnement, selon Benoît Couture. Ce n'est pas comme la batterie assez de plomb que tu changes toi-même dans ton garage. Ça pèse 500 ou 600 kilos. Il n'y a personne qui va mettre ça sur le bord de la rue. Un programme de récupération des batteries de véhicules électriques géré par l'industrie automobile existe au Québec depuis 2023. C'était « Comment recycle-t-on les batteries lithium-ion ?» un texte de Raphaël Derome, paru le 14 février 2025 dans le magazine Québec Science.
Autour de l'île du Prince-Édouard, de cesser d'offrir un rabais à l'achat d'une Tesla. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 24 mars 2025 dans La Voix acadienne. C'est au tour de l'île du Prince-Édouard d'exclure le constructeur automobile Tesla de son programme provincial de remise aux consommateurs pour l'achat d'un véhicule électrique. À compter de mardi, les véhicules de la marque qui appartient à Elon Musk ne seront plus admissibles à la remise provinciale de 5 750 $ pour un véhicule entièrement électrique. Les véhicules achetés avant le 25 mars demeureront néanmoins admissibles au rabais. L'île du Prince-Édouard emboîte ainsi le pas au Manitoba et, plus récemment, à la Nouvelle-Écosse, qui ont aussi exclu les automobiles Tesla de leur programme de remise aux consommateurs pour l'achat d'un véhicule électrique. En Colombie-Britannique, les systèmes de recharge de marque Tesla ne sont désormais plus accessibles à un rabais du fournisseur provincial d'électricité. Nous devons concentrer notre financement net zéro sur ce qui compte le plus pour les insulaires, a déclaré lundi le ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique, Gilles Arsenault, dans un communiqué. J'encourage tous ceux qui envisagent d'acheter un véhicule électrique à le faire auprès d'un concessionnaire ayant une présence locale ici, à l'île du Prince-Édouard ou dans les Maritimes. En Nouvelle-Écosse, le gouvernement a été plus explicite dans sa condamnation d'Elon Musk et de son rôle dans l'administration du président américain Donald Trump, dont la menace de tarifs douaniers a déclenché une guerre commerciale avec le Canada. Pourquoi devrions-nous soutenir quelqu'un qui ne soutient pas le Canada? A soulevé vendredi dernier le ministre néo-écossais Brendan Maguire. C'était autour de l'île du Prince-Édouard de cesser d'offrir un rabais à l'achat d'une Tesla. Un texte de François-Pierre Dufault, paru le 24 mars 2025 dans La Voix acadienne.
Faites-vous la sieste durant les heures de bureau? Un texte de Maude Goyer, paru le 25 mars 2025 dans La Presse. la pause sieste est intégrée dans plusieurs routines de télétravailleurs depuis la pandémie. Certains en parlent ouvertement dans leur milieu professionnel, alors que d'autres la font en cachette. Peu importe, ces bienfaits sont indiscutables, disent les experts. Je ne m'en vante pas auprès de mes collègues, mais je sieste 2 ou 3 fois par semaine. Linda Lévesque, traductrice dans le milieu pharmaceutique, travaille exclusivement de la maison depuis la pandémie. Elle apprécie le mode de vie que cela lui apporte. Pause lunch prise à heure variable, tâches domestiques dispersées ici et là, promenade en fin d'après-midi dans son quartier et surtout, sieste quand elle en ressent le besoin. Sa patronne le sait, mais elle préfère rester discrète de peur d'être jugée. « Je coupe mon heure de lunch en 2 », raconte la Montréalaise de 54 ans. « Rien n'y paraît dans ma charge de travail. Je fais ce que j'ai à faire. » « Sa planification est impeccable », dit-elle, « pour réussir à y glisser une siesta, une fois de temps en temps. » Pour Daniel, 40 ans, c'est différent. Insomniaque, il préfère taire sa passion des petits dodos d'après-midi. « Dans mon milieu, ce serait mal vu », dit le graphiste qui évolue dans le milieu de la publicité. « Autant je ne m'en passerai pas, autant je ne me vois pas en parler ouvertement. C'est mon secret. » Une bonne habitude. De plus en plus démocratisée dans les milieux de travail, certains bureaux ont aménagé depuis la pandémie des coins siestes pour leurs employés et cela devient un avantage social non négligeable. La sieste est encore plus facile en télétravail. Elle n'a pas à être déclarée à qui que ce soit et elle peut passer inaperçue. Qu'elle soit assumée ou niée, la sieste est une bonne habitude à mettre à son agenda, disent les experts. Un rappel. Environ 50% des gens se plaignent de mal dormir et 30% ont un trouble du sommeil, souligne Nadia Gosselin, professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal et directrice scientifique au Centre d'études avancées en médecine du sommeil au CUSSS du nord de l'île de Montréal. Une sieste de 20 minutes a un impact positif sur la cognition, dit-elle, comme la mémorisation, la planification, l'organisation, la concentration sur une tâche, l'efficacité. Il faut cependant que la sieste soit faite au bon moment et qu'elle ne soit pas trop longue. Inertie et pression du sommeil. Trop longue, elle viendra créer une inertie du sommeil, soit le fait de se sentir endormi, sans énergie au réveil de la sieste. Et si elle n'est pas faite dans la bonne fenêtre durant la journée, elle peut nuire à la pression du sommeil, ce signal envoyé au cerveau qu'on a besoin de dormir. Elle devrait durer un maximum de 30 minutes et, idéalement, elle prend place avant 14 heures, explique Mme Gosselin. Est-ce une bonne idée? Oui, répond sans hésiter Charles Morin, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada en médecine comportementale du sommeil. Si la sieste n'est pas faite trop tard dans la journée, si elle est faite par exemple dans un endroit calme, sans interruption, ses bénéfices sont maximaux. Et on n'a pas besoin d'être couché dans son lit. Une sieste dans un fauteuil ou sur le divan, ça fonctionne aussi. Sa prescription, elle ne doit pas dépasser 15 heures. Et il ne le recommande pas pour les gens qui ont des troubles de sommeil, comme chez ceux qui font de l'insomnie. Ce serait comme tenter de compenser, dit-il. Certaines personnes brûlent la chandelle par les deux bouts et ne priorisent pas leur sommeil. Cela représente 1 personne sur 5. Quelqu'un qui, par exemple, a besoin de 8 heures par nuit et ne dort que 6. Il sera somnolent, il perdra en vigilance. Les pouvoirs du micro-sommeil. Ces gens choisissent parfois de se rattraper le week-end, soit en dormant plus tard le matin, soit en privilégiant une sieste. Pour certains, ça peut marcher, précise-t-il. Les parents de jeunes enfants vivent les durs effets de la privation de sommeil, rappelle Nadia Gosselin, comme les travailleurs performants qui abattent beaucoup de boulot et vivent beaucoup de stress. On n'a jamais autant travaillé que ces 5 dernières années, note-t-elle. Et c'est vrai pour les télétravailleurs qui vivent avec ce flou entre vie professionnelle et vie personnelle. Elle indique que, lors des siestes, même si on s'allonge et qu'au lever, on ne croit pas avoir dormi, on a tout faux. Certaines régions de notre cerveau ont dormi. C'est ce qu'on appelle du microsommeil. Les avantages sont quand même là. Un truc? Prendre un café juste avant la sieste. Si on a l'habitude de prendre du café en le prenant immédiatement après le dîner, on s'assure que la sieste ne va durer que 20 ou 30 minutes et les effets de la caféine, le petit boost, vont nous fouetter au réveil. C'était « Faites-vous la sieste durant les heures du bureau », un texte de Maude Goyer paru le 25 mars 2025 dans La Presse.
Le pouvoir de la littérature, la 27e édition de Métropolis Bleu. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 26 mars 2025 dans le magazine Fugue. L'actualité nous le répète sur tous les tons. Le monde est sens dessus-dessous, inutile d'en ajouter. Et si la littérature avait le pouvoir de le remettre à l'endroit? C'est bien ce que propose le menu de la 27e édition du Festival littéraire international Métropolis Bleu à Montréal. Cette édition qui s'interrogera sur notre rapport au temps, la situation climatique et la diversité affiche un éventail exceptionnel de voix venues du Québec, du Canada et du reste du monde. Salman Rushdie sera présent au festival pour recevoir le Grand Prix Métropolis Bleu 2025. Dans son dernier ouvrage, Knife, Meditations After an Attempted Murder, traduction française Le couteau, réflexion suite à une tentative d'assassinat, Salman Rushdie écrit que la littérature est la seule arme qu'il n'ait jamais possédée. Sa présence marquera sans contredit l'un des temps forts du Festival littéraire international Métropolis Bleu. Ce ne sera pas le seul. L'historien, romancier et essayiste britannique, internationalement connu, Simon Sebag Montefiore, sera présent au festival pour y recevoir le prix Métropolis Bleu. Ses romans et ses essais sur la Russie, sur Staline ou sur l'impératrice Catherine, sa biographie de la ville de Jérusalem sont des best-sellers dans le monde entier. Son plus récent ouvrage, The World, A Family History of Humanity, raconte l'histoire de l'humanité depuis l'homme de Néandertal jusqu'à Donald Trump, vu à travers la lorgnette de familles célèbres ayant façonné notre histoire. Les Césars, Médicis, Bonaparte, Habsbourg, Rothschild, Rockefeller, Kennedy, voir les Kim, Corée du Nord, et les Assad, Syrie. L'auteur et excellent vulgarisateur allemand Peter Wohlleben sera présent au festival Métropolis Bleu. À sa parution en 2015, La vie secrète des arbres a été un véritable phénomène qui ne s'est pas démenti depuis, avec les rééditions qui se succèdent et les titres ayant suivi dans plusieurs langues. Au festival, Peter Wohlleben recevra le prix Métropolis Bleu Planète Littérature. En 2025, Métropolis Bleu inaugure le prix des premiers peuples, édition internationale. C'est que la renaissance des cultures autochtones s'observe un peu partout dans le monde, au-delà des frontières nationales. Le premier lauréat de cette édition internationale est l'auteur américain Stephen Graham Jones, de la nation Pikunis, Blackfoot, qui vit et enseigne au Colorado. Le volet voix autochtone du festival accueillera d'ailleurs les poètes Liliana Ancalao, Patagonie, Mapuche, Mapuzung, Joséphine Bacon, Nouchimit, Québec, Innu, Fiorella Boucher, Uruguay, Québec, Guarani, l'essayiste Niigan Sinclair, Winnipeg, Peggis, Anishinaabe, la spécialiste des littératures Inuit, Nelly Duvik, Nunavik, le romancier Coltrane Sissikasis, Gatineau, Willow Creek, Canada. Le volet queer de Métropolis Bleu. Au chapitre des prix littéraires Métropolis Bleu, précisons que le prix Violet, décerné à une figure marquante de la littérature queer canadienne pour l'ensemble de son œuvre, sera remis en 2025 à France d'Aigle. L'événement sera animé par l'auteur Christopher Dirado, qui a été, de mémoire, l'instigateur du prix il y a quelques années, et Catherine Leclerc interviewera France d'Aigle à l'occasion. Les membres du jury pour le prix Violet cette année étaient Étienne Bergeron, Michel-Marc Bouchard et Ariane Desrochers, explique Chris Dirado. Le jury a désiré souligner que France d'Aigle est une figure majeure non seulement de la littérature acadienne, mais de la francophonie canadienne. France d'Aigle bâtit une œuvre postmoderne, rigoureuse et cohérente depuis les années 1980. En plus de 12 romans, elle a écrit pour le théâtre et publié un recueil de poésie. Rappelons que son roman « Pour sûr » a été récompensé par un prix du gouverneur général en 2012, en plus d'être finaliste au International Dublin Literary Award. Après plus de 10 ans d'absence, elle a publié en 2024 « Petit crayon pour Fermine » aux éditions du Boréal, un récit qui aborde notamment sa transition de genre. Chris Dirado présentera également à Métropolis Bleu l'événement Queer Dating Horror Stories, une soirée animée et touchante où des conteurs LGBTQ+ vont partager leurs moments de rencontre les plus hilarants, gênants et inoubliables. Parmi les participants, notons la présence de Joanne Pelletier, John Cotroquas, Lucas Rowland, Caddy Diop, Jennifer June Chapman, Thomas Mundiger. La drague Misty Waterfalls va co-animer avec moi la soirée, explique Christopher Dirado. Ça va des premiers rendez-vous ratés aux rencontres délicieusement désastreuses. On va y entendre des histoires vraies mêlant humour et vulnérabilité, offrant un aperçu brut et pertinent du monde des rencontres queer. Le 24 avril à 19h30, il sera possible d'assister à la librairie Le Guélion à un entretien avec France d'Aigle, portant le titre « D'écrire pour dépasser les binarités ». Prenant appui sur son dernier livre, « Petit crayon pour Fermine », la discussion visera à mettre en lumière plusieurs thématiques présentes dans l'œuvre de France d'Aigle, notamment le dépassement des binarités, qu'elles soient en lien avec le genre ou bien les champs littéraires et linguistiques. La rencontre sera l'occasion de mettre en valeur la contribution remarquable de France d'Aigle en tant que figure importante de la littérature contemporaine chiac, tout en soulignant sa participation au rayonnement de la culture queer du Nouveau-Brunswick et de la francophonie. La traduction est un art, et elle peut aussi être un bonheur. À ce sujet, Chris me confiait qu'il est à la recherche du match parfait pour la traduction de ses deux romans « Geography of Pluto » et « The Family Way ». Comment lire un roman? Comment faire entendre sa voix dans une autre langue? Quel dialogue subtil la traduction crée-t-elle? La grande Anne Michaels, prix Jeller 2024 pour « Held », traduction française « étreinte », discutera tantôt des bonheurs de la traduction avec sa traductrice Dominique Fortier, également romancière, La part de l'océan, ainsi qu'avec le romancier Kev Lambert et son traducteur Donald Winkler pour « Que notre joie demeure ». On nous propose aussi une rencontre à la bibliothèque Le Prévost, quartier Villeray, avec Jonathan Bécotte, finaliste du prix TD de littérature jeunesse 2024, qui va présenter son livre « Tache d'huile ». Certaines situations, expériences, émotions ou dimensions identitaires appartiennent à l'individu et ne se transmettent pas. Elles peuvent cependant être communiquées par la littérature, souvent source d'empathie. Trois voix, trois expériences, noir, queer, autochtone, au miroir de la traduction s'exprimeront à l'espace Godin de l'Hôtel 10, lors de l'événement Black Queer Indigenous, la voix de l'autre, la voix de soi, sur comment la voix de l'autre peut être entendue en traduction. Katia Grubisic, lauréate du prix du gouverneur général pour sa traduction d'Une réunion près de la mer, de Marie-Claire Blais, Nights Too Short to Dance. David Chariondi, récente traduction française chez Héliotrope de Mon frère et Il est temps que je te dise. Lettre à ma fille sur le racisme. Et la poète mapuche Liliana Ancalao, Pantagonia, dont les poèmes en Mapuzungun ont été traduits en anglais et en espagnol. On nous proposera une discussion entre Sherry Simon et Robert Schwarzwald à l'occasion de la publication de leur anthologie Worldwise, Edwards Roditi's 20th Century. Édouard Roditi représente la quintessence de l'esprit cosmopolite dans le monde de la culture et de l'histoire du 20e siècle. Critique, traducteur, essayiste et homosexuel, Édouard Roditi, 1910-1992, avait des ancêtres juifs séfarades d'origine grecque, espagnole et italienne du côté paternel et des liens avec des juifs catholiques et ashkénazes du côté maternel. Né à Paris, il a été publié dès l'âge de 18 ans. Il a servi d'interprète au procès de Nuremberg et était un traducteur littéraire et essayiste réputé sur la littérature, l'art et la politique de son époque. Évidemment, il ne s'agit qu'un des volets du festival. Sur le thème général de « Le temps, l'arbre, la page », la 27e édition de Métropolis Bleue réunira à Montréal plus de 150 invités, proposera plus de 120 événements, mettant à contribution plus de 8 langues. Info, page web du festival Métropolis Bleue, métropolisbleue.org. C'était « Le pouvoir de la littérature », la 27e édition de Métropolis Bleue. Un texte d'Yves Lafontaine paru le 26 mars 2025 dans le magazine Fugue.